France Inter.
À vous qui podcastez cette émission, on a rendez-vous pour l'apéro avec une badass internationale. Elle est ancienne rapporteuse spéciale de l'ONU, c'est-à-dire qu'elle a enquêté par exemple sur l'empoisonnement de Navalny et elle est le secrétaire général d'Amnesty International.
Bonjour Agnès Calamard.
Enchantée.
Merci de me recevoir.
Mais avec joie.
J'étais à l'intérieur, vous étiez en terrasse, on a failli se louper.
Voilà,
heureusement
exactement.
Que je vous ai reconnu.
Merci.
Vous êtes identifié. Venez, on va s'installer.
Merci.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Agnès Calamard, vous avez été rapporteuse spéciale des Nations Unies. Vous avez enquêté notamment sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny, le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Vous consacrez votre vie à vous battre contre les dictatures, les oppressions, les exactions. Et aujourd'hui, vous êtes secrétaire générale d'Amnesty International. Ça va, vous, en ce moment, Agnès Calamard ?
Écoutez, moi, personnellement, ça va. Le monde, par contre, lui, ne va pas bien. Je pense que... on n'a jamais été dans une situation aussi grave que celle auquel nous faisons face à l'heure actuelle. Nous sommes vraiment au bord d'un précipice. En fin de compte, je pense qu'on est déjà un petit peu au fond du précipice.
Ah. Et chez Amnesty International, dont vous êtes la secrétaire générale, je rappelle, c'est quoi le gros dossier du moment ?
Malheureusement, ça demeure les gros dossiers des trois dernières années. Tout d'abord, les grands crimes de guerre commis par la Russie contre le peuple ukrainien et dans les régions qu'il contrôle, où on a très peu accès, mais on sait qu'il se passe des choses horribles, y compris le déplacement forcé des enfants ukrainiens vers la Russie. Nous venons aussi de sortir un grand rapport sur les violences sexuelles au Soudan, qui ont atteint des proportions que nous n'avons jamais vues dans notre travail. C'est absolument immonde. Ce qui se passe à Gaza continue bien sûr d'être l'une des grandes thématiques, le génocide qui est en train de se passer, les meurtres de tous ces enfants devant nos yeux, c'est encore une grosse problématique. Et bien sûr, maintenant, ce qui se passe aux États-Unis et en dehors des États-Unis en raison de l'élection de Donald Trump. Je parle là de l'état de non-droit qui est en train de s'installer dans ce pays qui pourtant se voulait vraiment l'un des fleurons de l'état de droit à travers le monde et des principes entre guillemets démocratiques.
C'est-à-dire que dans vos dossiers qui sont aussi, j'imagine, la RDC, vous l'avez dit, le Soudan, la Russie, etc., entre les États-Unis, et ça, c'est frappant.
Ah, mais les États-Unis deviennent notre priorité. Pourquoi ? Parce que l'influence américaine, on le voit d'ailleurs depuis 100 jours, le monde vit au rythme de Donald Trump. On mange, on boit, on respire du Donald Trump à longueur de journée.
Surtout, on se réveille le matin, malheureusement, voilà. Avec le décalage, c'est le matin.
Ah, voilà, exactement. Donc, de toute façon, l'impact des États-Unis sur le reste du monde a toujours été très important, mais avec les prises de position du président à l'heure actuelle, c'est un impact disproportionné et extrêmement négatif. L'impact d'avoir fermé, par exemple, USAID, donc cette grande agence de développement, ça va se traduire par des dizaines de milliers de morts. Tout à coup, du jour au lendemain, des organisations de la société civile, mais aussi des départements de santé d'États pauvres, y compris en Afrique, ont tout perdu. Donc, pour l'instant, ils avaient encore dans leur réserve suffisamment de médicaments pour pouvoir continuer à les donner aux populations les plus appauvries, mais je pense que toutes ces réserves vont disparaître. Donc c'est vraiment un impact extraordinaire qu'il a et extraordinairement néfaste que ces actions ont. Je voudrais aussi mentionner les populations migrantes aux États-Unis, qui sont traités à l'heure actuelle comme de vulgaires paquets que l'on peut saisir et jeter à l'extérieur des frontières sans aucun processus juridique, sans aucun état de droit. Des gens qui se retrouvent envoyés au El Salvador. J'ai travaillé au El Salvador en tant que rapporteur spécial. Je peux vous dire que ces prisons, il y a tellement de monde. Moi, j'y suis allée dans ces prisons, je ne pouvais plus respirer. Les gens sont debout toute la journée. Vous imaginez un petit lieu avec des dizaines ou des centaines de gens, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Donc, les plus puissants dans cette petite pièce, décide qui va pouvoir s'asseoir ou qui va même pouvoir s'allonger pour s'endormir. C'est de la torture. Ce sont des conditions d'emprisonnement qui constituent de la torture au quotidien. C'est là où on envoie les migrants. Les juges s'opposent à leur départ précipité vers des prisons salvadoriennes et la Maison Blanche ignore les décisions de la justice. On a des étudiants qui sont kidnappés dans la rue par des représentants de la sécurité, entre guillemets, qui n'ont aucun uniforme, qui ne portent aucune identité. Pour moi, qui travaille sur les exactions à travers le monde, ce sont des rafles qui sont en train de se faire, qui nous rappellent ce qui s'est passé, par exemple, au Brésil ou en Argentine au milieu des années 80. C'est des scénarios, pas à la même échelle encore, mais c'est des scénarios quotidiens aux États-Unis à l'heure actuelle. Il faut bien sonner l'alarme, ce qui est en train de se passer aux États-Unis est d'une gravité incroyable.
Je comprends mieux pourquoi vous dites qu'on est au fond du précipice. Et je vais vous dire, ce qui me rassure, c'est que vous faites de l'escalade, Agnès Calamar.
Oui.
C'est vrai.
J'aime bien. Enfin, l'escalade, c'est un grand mot par rapport aux vrais escaladeurs. Mais moi, j'adore crapahuter dans les montagnes. Et
sport aussi où on ne lâche jamais prise.
Voilà.
Donc moi, je suis dans votre équipe. Vous publiez Une enquêtrice à l'ONU. C'est le titre de ce récit paru chez Flammarion, coécrit avec le grand reporter Alexandre Duyck. Et votre livre, il a retourné l'une de mes certitudes comme une crêpe. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, enquêtrice à l'ONU, ok, c'est l'ONU qui dit « Ce crime est impuni, Agnès, fais tes valises, tu pars directement. » Et ça se passe pas du tout comme ça.
Non, pas du tout. Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants. Donc, nous sommes recrutés au niveau international par les États, environ 48 États. Mais une fois qu'on est recruté, c'est nous qui prenons les décisions, qui s'auto-saisissons de sujets. Bien sûr, les gens nous écrivent. Les avocats nous envoient des dossiers.
Donc, c'est comme ça que vous êtes arrivé sur le dossier Navalny, c'est son avocat.
Un des avocats de Alexei à l'époque m'a écrit en me demandant est-ce que vous pouvez enquêter sur la tentative d'empoisonnement dont il avait été victime. Ensuite, c'est à nous de prendre des décisions. Sur différentes bases. L'une, c'est les ressources. L'autre, c'est est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'on va pouvoir apporter quelque chose? Est-ce que mon intervention va tomber dans le vide ou est-ce qu'elle va permettre de soulever des thématiques, etc.
Donc, ça veut dire que vous devez convaincre l'ONU?
On doit plus ou moins convaincre l'ONU, voilà.
Alors, on va évoquer ce que vous appelez aujourd'hui vos morts. Navalny, Ghislaine Dupont, Claude Verlon, les journalistes de RFI assassinés au Mali en 2013 aussi. Et je vous propose de commencer par ce qui ouvre votre livre « Une enquêtrice à l'ONU ». Vous avez pu écouter l'enregistrement des derniers instants du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il écrivait pour le Washington Post, entre autres. Il y dénonçait les dérives autoritaires du régime saoudien et il a été assassiné et découpé en morceaux au consulat saoudien à Istanbul en 2018. Donc Agnès Calamar, vous avez, au cours de votre enquête, entendu sa mort.
Oui, j'ai entendu sa mort, en effet. Donc ces enregistrements m'ont été remis par les autorités turques parce que ça rentrait un petit peu dans leur vision politique, il ne faut pas le nier. Ces enregistrements retracent l'arrivée de Jamal dans le consulat saoudien.
Alors déjà là, j'apprends dans votre livre que Jamal, je l'appelle Jamal maintenant parce que je vous ai lu, il entre au consulat parce qu'il a besoin d'un papier, parce qu'il va se marier.
Voilà. Quand on voit les vidéos, il arrive avec une grande légèreté. Il sautille presque. Comme je le dis, quand on voit les vidéos, il est heureux parce qu'il vient chercher ce papier. Et Atiche, sa fiancée, l'attend à la porte.
Et lui dit, attends-moi ici, ce ne sera pas long.
Voilà.
Ça, vous le voyez sur les images à posteriori.
On le voit sur les images et Atiche me l'a confirmé aussi. Donc, il rentre. On l'entend qui dit bonjour aux gens qu'il rencontre et puis il voit quelqu'un qu'il connaît. Ça l'étonne un petit peu, il dit « Ah mais je ne savais pas que vous seriez là, etc. » Et là, très rapidement, le dialogue va devenir beaucoup plus sérieux et dangereux. Les personnes présentes dans la pièce commencent à lui demander d'appeler sa famille, de signifier qu'il va rentrer en Arabie Saoudite, qu'il ne va pas rester en exil, qu'il va arrêter de parler de la façon dont il parle, finalement, librement. C'est pour ça qu'il est parti. Donc, en quelques minutes, il commence à réaliser que la situation est gravissime, mais il pense au départ qu'ils vont le kidnapper. Et je l'imagine, tout à coup, du coin de l'œil, il voit qu'il y a des drôles de choses. Il voit des seringues, il voit des serviettes, il voit des sacs en plastique, et on entend sa voix qui réalise que c'est plus que gravissime, que ce qui est en train de se passer.
Ça, vous le percevez en écoutant les enregistrements ?
Moi, je le perçois un petit peu, mais je ne suis pas arabophone. L'interprète avec qui je travaillais l'a perçu très fort. Voilà.
D'ailleurs, dans ces enregistrements, vous expliquez aussi, enregistrement authentifié donc, hein, vous entendez les meurtriers rire même, parce que vous dites qu'il y a des sacs en plastique, on sait qu'il a été dépecé. Est-ce que le tronc et les hanches tiendront dans un sac et on entend rire ?
Ça, c'est ce qu'on entend avant le meurtre. Donc c'est pour ça, c'est un des éléments qui m'a permis de démontrer que le meurtre était planifié. La préméditation, on la retrouve dans deux ou trois choses. La première, c'est la présence du médecin légiste. Donc cette équipe de Saoudiens, une vingtaine de Saoudiens qui sont arrivés d'Arabie Saoudite en deux jours pour cette opération, dans cette équipe, il y a un médecin légiste, parce que c'est à lui que reviendra le rôle de dépecer le corps de Jamal.
Enregistrement, ça veut dire que des micros étaient installés au consulat.
Voilà, c'est très problématique, dirons-nous. Les services de renseignement turcs ont mis le consulat sous table d'écoute, ils ont probablement mis l'ambassade aussi. D'après ce que j'ai compris quand je suis allée en mission en Turquie, en fin de compte, pratiquement tout Ankara et tout Istanbul est sous table d'écoute.
D'accord.
C'est pour ça d'ailleurs que quand moi j'ai fait mes interviews, que ce soit dans des endroits publics ou privés, j'avais toujours une boîte avec moi pour brouiller ce que les services de renseignement essayaient d'écouter. Ouais. Je n'avais aucun doute qu'ils essayaient de m'écouter.
À ce stade de votre récit, notons que dans l'affaire Jamal Khashoggi et votre enquête, 4 mois d'enquête que vous avez vous-même financé en partie et dû travailler avec des bénévoles.
Oui. L'ONU était plutôt récalcitrante, dirons-nous. C'est une organisation que j'apprécie énormément, surtout, et je tiens à le dire quand même, parce qu'on est en train de la détruire. Elle a un rôle très important à jouer. Cependant, c'est une bureaucratie, et comme toute bureaucratie, elle déteste prendre des risques.
Donc il vous envoie prendre les risques, vous, en fait.
C'est-à-dire que non, il cherche à me dissuader de prendre des risques. Ils ne sont pas très chauds d'aller contre Mohamed Ben Salman en 2018. C'est très problématique. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il avait une aura de modernisateur. Et puis, bien sûr, c'est le monsieur super riche.
Et aujourd'hui, c'est l'arbitre du monde.
Et aujourd'hui, c'est toujours la richesse, mais aussi l'arbitre
Donc
du monde.
Donc ça ne va pas s'arranger. Le fait qu'on soit timoré devant l'Arabie Saoudite.
Exactement.
Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Dans une certaine mesure, mais oui. Je dirais que pendant 2 ans après le meurtre de Jamal, c'est un pays qui est devenu un peu un paria, et Mohamed Ben Salman lui-même est devenu un paria de 2018-2019 jusqu'à 2021, dirons-nous. Ensuite, nous avons des mesures de réhabilitation, d'ailleurs de la part du président Macron, suivies en juin 2022 de la part du président américain Joe Biden.
Eh oui. Il y a un procès en 2020 en Turquie, 26 accusés, absents, et puis le dossier transféré en Arabie Saoudite, donc c'est mort une deuxième fois, si je puis dire, voilà.
C'est tout mort. À l'heure actuelle, à partir du moment où la Turquie et l'Arabie Saoudite trouvent des terrains d'entente, en tant que super-pouvoirs régionaux, les poursuites en justice sont mortes, voilà.
Ah oui, c'est-à-dire du temps où la Turquie était en dispute avec l'Arabie Saoudite, vous avez eu des billes pour votre enquête.
Exactement.
Et maintenant qu'ils sont rabibochés...
C'est plus possible.
C'est foutu.
Voilà.
Mais alors, des fois, vous faites comme plein de gens dans ce pays, c'est-à-dire des rapports et puis qui arrivent aux archives.
Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Moi, ce que j'explique, c'est que la justice, elle peut prendre plusieurs formes. Bien sûr, il y a les tribunaux. Pour un jugement, il peut y avoir des milliers de victimes. Regardez ce qui se passe en Ukraine. On compte les victimes par milliers, centaines de milliers. Peut-on imaginer une seule institution de justice qui sera à même de rendre justice à toutes ces victimes ? Donc il faut quand même bien comprendre qu'il doit y avoir d'autres moyens pour que les victimes aient le sentiment d'avoir été entendues et que les victimes sachent qu'il y a eu des actions de prise. Donc pour moi, je situe le travail des rapporteurs spéciaux et le travail des journalistes dans ce cadre-là. C'est une façon d'apporter la lumière, les spots sur des actes que autrement les grands de ce monde voudraient camoufler, voudraient cacher. Et nous, on fait en sorte qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc maintenant, quand on parle de Mohamed Ben Salman, oui, on va parler de plein de choses, mais on ne va jamais oublier le nom de Jamal. Et ça, c'est déjà quelque chose.
Alors là, j'ai une question à vous poser qui est un peu personnelle. Parce que je me suis rendu compte que l'Arabie Saoudite était un de mes thèmes favoris de chronique satirique.
Ah, très bien.
Et que dès que je parle de l'Arabie Saoudite, je le dis, alors je vais vous le dire crûment, mais parce que je fais de l'humour noir. Ouais. Et je rappelle toujours Jamal Khashoggi. Ouais. Et je trouve une blague pour dire de ne pas oublier qu'il a fini découpé en rondelles.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que ça fait cette satire politique ? Je sais que vous êtes très attaché à la liberté
importante.
D'expression. Voilà, même si les satiristes s'en emparent avec de l'humour noir, c'est une forme de,
bah, absolument,
de justice.
Absolument. De toute façon, l'humour, ça fait partie de la résistance du peuple et des gens qui n'ont pas d'autre moyen que de dessiner les grands de ce monde qui abusent de leur pouvoir. Donc voilà, oui, bien sûr, et il a été découpé en rondelles. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils l'ont découpé en rondelles.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Je suis attablée au bistrot avec celle qu'on appelle la bête noire des dictatures, cette Agnès Calamard, qui a été rapporteuse spéciale des Nations Unies, qui a enquêté sur l'empoisonnement de Navalny, le meurtre de Jamal Khashoggi. Et vous êtes aujourd'hui secrétaire générale d'Amnesty International. Vous dites que dans toutes les familles, il faut un héros. Dans votre famille, c'est qui le héros ?
Dans ma famille, le héros, c'est le grand-père du côté de ma maman, donc son papa, qui était un résistant, qui avant d'être résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est engagé dans la Première Guerre mondiale à l'âge de 17 ans. Il est revenu de la Première Guerre mondiale avec les poumons complètement détruits. Et puis, quelques années plus tard, il a rejoint la résistance dans l'Oisans. Et il a été attrapé, malheureusement, peu de temps avant la libération. Et il a été exécuté le 15 août 1944.
Et vous en tirez une inspiration, un modèle ?
C'est ce qui a rythmé mon enfance et ma jeunesse. C'est-à-dire que tous les 15 août, nous allions nous recueillir à l'endroit où il avait été exécuté. Cette année, j'y suis allée et j'ai rencontré un monsieur qui était enfant à l'époque. C'était le fils du meilleur ami de mon grand-père. Et il m'a raconté qu'il avait entendu les rafales des fusils qui avaient exécuté mon grand-père. Et avec son papa, après, ils sont allés quelques heures plus tard pour essayer de retrouver les corps. Et ils ont trouvé le corps de mon grand-père et de l'autre monsieur qui avait été exécuté ensemble. Ils les ont un petit peu cachés pour pouvoir les enterrer un petit peu dans quelques jours plus tard. Il m'a raconté ça juste là, au mois d'août.
Oui. Ah oui ?
Oui.
On comprend mieux comment vous devenez rapporteuse spéciale pour l'ONU et secrétaire générale d'Amnesty International. Mais il n'y a pas que ça.
Non,
est-ce
y a que... pas que
ça. C'est-à-dire...
C'est important. Ouais. Je voudrais mettre en avant le travail de l'association des Amis de la Résistance de l'Oisans, mais il y en a partout en France qui rappellent ce que ces hommes et ces femmes ont fait pour protéger les Juifs qui étaient raflés, justement, pour protéger la liberté en France. Il y a tout un travail de mémoire qu'on ne peut pas oublier. À l'époque où certains essayent de réécrire l'histoire en prétendant que le gouvernement français de l'époque était du côté de la liberté, il ne l'était pas. Soyons très clairs, le gouvernement de l'époque n'a rien fait, au contraire, il a envoyé les Juifs dans les fours.
Et vous parlez de l'Oisans parce que vous êtes née à Grenoble, Agnès Calamard. Vous devez votre naissance à une rencontre sur les pistes de ski de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Donc vous êtes passé de Saint-Nizier-du-Moucherotte au siège de l'ONU à New York, quoi. C'est
voilà.
Si je résume. Hein.
En gros, oui.
Je résume. Sciences Po Grenoble et un premier voyage en Centrafrique en 85 parce que vous êtes, on pourrait dire, passionné, intrigué et vénère contre la France-Afrique. D'où ça vous vient, ça?
Est-ce que ça vient de mes lectures, de ce que j'ai vu à la télé, de mon sens de la justice et de l'injustice? C'est un mélange de tout. Ça me vient aussi d'un oncle, le frère de ma maman, qui travaillait beaucoup en Afrique à l'époque. Il était ingénieur des ponts et chaussées, donc, et puis des professeurs. Des gens qui vous éduquent, ils jouent un rôle très important, y compris donc les professeurs que j'avais à Sciences Po Grenoble à l'époque.
Okay. Alors vous intégrez ensuite l'université noire américaine Howard à Washington, Kamala Harris en sort par exemple, avec un programme d'études africaines, et vous faites partie d'une poignée de blancs au milieu de 10 000 Africains-Américains, racontez-vous. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas?
Je suis allée chercher moi peut-être.
Vous vouliez vous sentir en minorité?
C'est votre côté rebelle. C'était pas conscient, mais c'est vrai que c'est ce qui s'est passé à la fin. Je suis arrivée dans une université, il y avait à l'époque 16 000 étudiants qui venaient à Howard pour se retrouver entre eux, hein, parce que c'est quand même un pays extrêmement raciste, avec la ségrégation qui était encore très présente à l'époque. Je pense qu'elle l'est moins maintenant, encore qu'avec Donald Trump, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais à l'époque, donc, c'était encore un pays avec, qui connaissait la ségrégation culturelle, je dirais. Et à Washington, où était Howard, elle était physique. On passait d'un quartier noir à un quartier blanc.
Ah oui, donc vous vouliez être parmi et au soutien des opprimés, en fait, déjà.
Non, écoutez, je ne veux surtout pas prétendre qu'en tant que petite Française blanche, je puisse comprendre l'oppression d'un noir américain. Il faut être très clair là-dessus. Moi, mon privilège, je le porte sur ma peau. Même si j'étais dans un environnement où j'étais minoritaire, c'est toujours un privilège. On vit dans un monde où être blanc, c'est encore un privilège. Ça m'a interpellée en profondeur de comprendre que je vivais une expérience dont peu d'autres personnes allaient faire l'expérience. Je me suis dit, mais ça, c'est d'une richesse incroyable. Et ça m'a construit aussi. Hein. Quand je passais de Howard à un univers blanc, c'était très curieux parce que les gens que je rencontrais dans l'univers blanc américain ne me comprenaient absolument pas. Quand je leur disais ce que je vivais et où je vivais, pour eux, c'était impensable. Donc c'est la rebelle en moi et j'ai compris quand même que c'était une grande richesse, ce dont je faisais l'expérience.
Alors ensuite, vous faites un stage au Haut Commissariat pour les réfugiés, puis vous entrez à la New School de New York. Vous dites à ce moment-là, se consolide votre conscience féministe. Et il y a une phrase dans votre récit, Agnès Calamar, vous dites... Je ne suis pas sûre d'avoir compris.
Oui, dites-moi, je sais laquelle vous allez me dire.
Ah ouais ? On va voir si c'est la même. Il m'a fallu de nombreuses années pour parvenir à trouver une harmonie entre mon engagement contre le racisme et mon féminisme.
Ah oui.
Ça m'intrigue.
Je pensais que vous alliez dire. C'était la phrase que je pensais que vous alliez.
On est en phase, Agnès.
Voyez-vous, les États-Unis, des années, la fin des années 90, c'est toujours un pays où sévit encore le racisme plus ou moins ouvert, où il est impossible, presque impossible encore de se promener main dans la main si on est blanche avec un homme noir. Donc j'avais ce sentiment que si je m'inquiétais sur le féminisme, y compris dans la communauté noire, j'allais manquer à mes responsabilités pour me battre contre le racisme. Et je pense que c'était mon expérience, c'était aussi l'expérience de nombreuses femmes noires qui ont mis de côté le féminisme pendant de nombreuses années parce qu'elles considéraient que le racisme de l'État, le racisme institutionnel, ça devait être le premier combat. Que le deuxième, c'était leur indépendance et leur égalité par rapport aux hommes, y compris par rapport aux hommes noirs. Tout ça, ça a évolué. Maintenant, on arrive beaucoup plus à trouver une harmonie entre ces deux combats, d'autant plus qu'il faut bien reconnaître que la misogynie et le sexisme, c'est encore peut-être même plus profond au niveau des civilisations que le racisme.
C'est ce qu'on appelle le combat intersectionnel aujourd'hui,
voilà.
Où ces deux combats se rejoignent.
Exactement, exactement.
Agnès Calamar, vous avez réalisé une autre enquête, celle sur l'exécution au Mali de deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Et vous n'avez jamais pu avoir accès aux militaires des Nations Unies, ni aux hauts gradés français qui détiennent sans doute des clés. Alors je me suis demandé, en vous lisant, ça m'a saisi, je me suis dit, mais quels intérêts primes sont au-dessus, qu'est-ce qui se passe au-dessus de la vérité et de la justice pour que vous n'ayez pas accès à ce que vous avez à portée de main, en fait?
Oui, bon, moi c'est un problème, mais le fait que le juge d'instruction français n'y ait pas eu accès non plus, ou a eu énormément de difficultés pour y accéder, c'est encore plus problématique.
Vous dites un président de la République, eh ben, il peut être entendu, mais pas un haut gradé de l'armée française.
Voilà, exactement. C'est la culture militaire française, mais bon, je l'ai retrouvée aussi aux Nations Unies, puisque à l'époque de ce meurtre, il y avait une présence onusienne au Mali.
On est en 2013.
Voilà. Ce sont des militaires des onusiens qui sont arrivés les premiers sur la scène de crime, qui ont vu les premiers les cadavres de Ghislaine et de Claude, qui ont fait des rapports tout de suite. Et donc, c'est à eux que je voulais parler, et aussi de recevoir les rapports. Toutes mes lettres, en tant que rapporteur spécial des Nations Unies auprès de la MINUSMA, sont restées lettres mortes. Donc il y a un secret, la culture du secret, à la fois au niveau des militaires onusiens, mais aussi au niveau des militaires français, le secret défense qui empêche l'accès à la justice.
Donc aujourd'hui, ce qui est réellement arrivé à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qu'est-ce qu'on a comme élément?
On sait qu'ils ont été kidnappés par ce qu'on pensait être simplement un groupe lié aux activités, entre guillemets, des groupes armés, djihadistes, terroristes, comme on les appelle en France. Il est possible, en fin de compte, que ces groupes armés étaient aussi peut-être liés à des groupes indépendantistes. Ça, c'est de nouvelles pistes. Et les images, les photos, pardon, des cadavres et de la scène de crime démontrent bien qu'ils ont été tués à bout portant, qu'il n'y a pas eu d'échange de feu, donc ils ont vraiment été tués par les kidnappeurs qui ont pris peur, qui ne savaient plus quoi faire, et ils se sont enfuis à pied, où ils ont peut-être retrouvé des complices un petit peu plus loin. Voilà ce que l'on sait. On sait aussi que le commanditaire était quelqu'un qui a été identifié. Les personnes qui ont tué Ghislaine et Claude ont aussi été identifiés. Aurait-on pu les arrêter? Moi, je suis persuadée qu'on aurait pu. D'autant plus que le commanditaire est devenu une personne d'intérêt pour d'autres échanges, dans d'autres histoires un petit peu louches. Au lieu de les arrêter, on les a tués. C'est-à-dire que la France a agi de la même façon que les États-Unis le font, ou que Israël d'ailleurs, c'est qu'on tue ceux qui sont responsables de la mort de nos citoyens, mais ce n'est pas la justice. Et je dois insister là-dessus, l'opération militaire ne peut jamais remplacer un acte de justice devant les tribunaux. Voyez ce qui s'est passé avec les attentats de 2015. C'est extrêmement important d'avoir ces séances de justice, ces tribunaux, ces jurés, ces juges, ces avocats, toutes ces personnes qui prennent la parole, les victimes, les familles. C'est ça la justice. D'envoyer des militaires subrepticement pour aller assassiner des enfants de salauds, je veux bien le reconnaître, c'est pas la justice. Et ça ne permet pas aux sociétés de dépasser ce qui s'est passé, ça ne permet pas aux sociétés de croire en leurs institutions.
Agnès Calamard, je ne peux pas vous laisser partir sans parler aussi d'Alexeï Navalny. Donc je comprends, en vous lisant, que vous avez remonter la piste dans votre enquête par la nature du poison dans l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, que vous qualifiez donc d'arme chimique, c'est ça?
Ouais, c'est une arme chimique, hein, le Novichok. Il a été empoisonné en Sibérie, il a pris l'avion, il a perdu connaissance. Il m'a dit plus tard qu'il avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui lui arrachait l'air des poumons. Comment est-ce qu'on a prouvé que c'était du Novichok? Parce que l'Organisation mondiale des armes chimiques a récupéré le sang, l'urine d'Alexeï et l'a distribué de façon plus ou moins random à plusieurs laboratoires qui se spécialisent dans des analyses extrêmement difficiles des produits chimiques. Et tous ces 5 laboratoires sont arrivés à la même conclusion, qu'il s'agissait de Novichok. Deuxième chose très importante, le Novichok qu'ils ont découvert avait une petite différence par rapport à la dernière formule chimique qu'ils avaient dans leur système. Et ça, ça a été vraiment une preuve déterminante. Pour pouvoir transformer le Novitchok, il faut une connaissance extrêmement aiguë de ce poison. Et il est très connu qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul pays qui ait cette capacité, c'est la Russie.
On a envie de vous dire élémentaire, ma chère Agnès Callamard.
Élémentaire, plus le fait que c'est des armes extrêmement difficiles à manipuler, qu'il n'y a pas grand monde qui peut la manipuler sans se faire tuer, et donc il fallait bien que les gens qui aient empoisonné Alexei, donc qui aient mis le produit dans ses vêtements, comme on le soupçonne, il fallait que tout ça soit fait par des gens extrêmement bien aguerris, d'autant plus qu'à l'époque, Alexei était sous surveillance constante.
Des spécialistes de l'empoisonnement au Novitchok.
Voilà.
Agnès Callamard, on arrive à la fin de cet entretien et on a évoqué ce que vous appelez vos morts, parce que tout ça, ce que vous racontez, c'est waouh, c'est choquant. Quand vous dites ce sont mes morts, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pensez à eux tous les jours, vous cohabitez avec eux
et... Je cohabite dans la paix et ils m'accompagnent et elles m'accompagnent dans toutes mes démarches. Ne jamais oublier pourquoi et pour qui on se bat. Pour moi, c'est absolument primordial. L'humain, l'être humain, c'est au centre de toutes mes démarches et c'est pour ça... C'est pour ça que je ne veux jamais les oublier. Ça ne veut pas dire que je vis dans le deuil constamment, pas du tout. Ils me donnent de la force, elles me donnent de la force. Mais elles m'accompagnent, voilà, je cohabite en toute presque plénitude et sérénité avec elles et avec eux. Et elles me donnent cette force qui m'habite, je pense, dans chacune de mes démarches.
Agnès Callamard, vous publiez Une enquêtrice à l'ONU, ce récit chez Flammarion, coécrit avec Alexandre Duic. Et je rappelle que vous êtes secrétaire générale d'Amnesty International, qu'on est au fond du précipice, mais vous faites de l'escalade et on vous suit.
Et on se bat. Et on résiste. On résiste.
Merci Agnès Callamard.
Merci.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier chargée de programme, Anaïs Reynard à la réalisation, Florent Bujon à la technique, Corentin Ruchy au mixage et Corinne Chauvel à la documentation. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20.